L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques, toujours sur le thème « La femme à la perte de sang ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton enseignement sur la femme à la perte de sang. Seigneur, tu as de très bonnes choses à nous enseigner encore une fois aujourd'hui. Et ma prière est que ta parole sauve, guérit, délivre, fasse du bien à un homme ou une femme au travers de cette émission. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La femme à la perte de sang. J'aimerais que nous lisions la même histoire, mais rapporté par un autre évangéliste. Dans Matthieu 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Cette femme nous enseigne vraiment de grandes vérités spirituelles. Verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. » Lorsque nous lisons la même histoire dans Marc 5, 22 à 43, il nous est pas dit que la dame à la perte de sang avait pensé. Il nous est dit qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est levée et elle a dit, « Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie. » Mais Matthieu ajoute un détail qui ne se retrouve pas dans Marc. Elle pensait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Dans le processus de restauration, les pensées jouent un rôle très important. Je répète, dans le processus de restauration de votre vie, ce que vous pensez joue ou a une importance capitale. Parce que vous pensez avant de dire. Donc, quand nous lisons Marc 5, dans l'histoire de Marc 5, dans le récit de Marc 5, elle a dit, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais avant de le dire, Matthieu nous dit qu'elle a pensé cela. Nous définissons les pensées ainsi. La faculté de réfléchir. L'ensemble des idées et des opinions. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas venu vous annoncer des théories, non. Je suis venu vous annoncer des principes bibliques. Ce que vous pensez détermine votre avenir. Ce que vous pensez détermine ce que vous allez prononcer. Ce que vous pensez détermine comment vous allez vous agir. Écoutez, l'acte de voler vient d'abord dans la pensée. Vous pensez d'abord à voler avant de poser l'acte. Il n'est pas possible de voler sans réfléchir ou sans avoir prémédité. Même si c'est juste une minute, deux minutes, trois minutes, c'est d'abord une pensée. Tout d'abord, vous avez pensé cela. Vous êtes peut-être allé visiter quelqu'un, vous n'aviez pas eu au départ de voler, mais vous êtes entré dans sa maison et vous avez vu quelque chose qui vous plaît. Et vous avez réfléchi, vous vous dites, je ne saurais pas l'avoir de façon légale. Donc, je vais passer de façon illégale. Les pensées détruisent les vies ou bâtissent les vies. Dieu s'intéresse autant à vos pensées que le diable. 2 Corinthiens 10, verset 5, il nous est dit ceci. Bon, j'aimerais commencer par le verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Lesquelles ? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, c'est dans la pensée. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deux écoles disent ceci de l'homme. L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Ça, c'est une école. Il y a une autre école qui dit, l'homme est esprit, il vit dans un corps et il possède une âme. L'âme est le siège des pensées, des émotions, des idées, des opinions. Moi, j'ai tendance à être pour la deuxième école. Je suis esprit, je vis dans un corps et je possède une âme. Paul dit ceci, que nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous devons amener nos pensées à l'obéissance de Christ. Pourquoi ? Parce que ce que vous pensez va déterminer ce que vous allez prononcer. Ce que vous pensez va déterminer votre façon de vivre tous les jours. Écoutez, si vous pensez que vous êtes pauvre, on pourrait vous donner tous les millions de dollars du monde, tous les millions d'euros, les milliards d'euros. Tant que vous pensez que vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. Vous savez, il y a de ces gens qui ont quitté des pays sous-développés, des pays en voie de développement, et sont entrés dans des pays développés. Mais leurs mentalités n'ont pas changé. Ils se comportent toujours comme s'ils étaient dans des pays sous-développés. Un de mes professeurs a dit, quand j'étais dans une université, je faisais l'économie, que le facteur de développement ou le développement n'est pas une question de richesse, mais c'est une question de mentalité. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai vu des grands hommes, selon le monde, se comporter comme des sauvages, comme des hommes et des femmes sans éducation. Et pourtant, ils ont tout ce qu'un homme rêve. Des voitures, des maisons, des titres, ils sont même intelligents, ils ont de grands diplômes, mais ils se comportent comme des sauvages. Pourquoi ? Parce que dans leur pensée, ce sont des sauvages, si je puis dire comme ça. Cette dame à la perte de sang, dans les étapes qui l'a emmenée à la restauration, écoutez, elle s'est dit à elle-même, « Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. » J'aimerais savoir ce que vous vous dites vous-même le matin quand vous vous levez. Qu'est-ce que vous dites de vous-même lorsque vous faites quelque chose et que ça échoue? Qu'est-ce que vous dites de vous-même lorsque, vous faites une demande en mariage et qu'on ne veut pas de vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Vos pensées ont une très grande importance. En d'autres termes, le royaume de Christ et le royaume des ténèbres se livrent une bataille pour avoir accès à vos pensées. Oui, le diable et Christ sont en train de se battre pour avoir accès à vos pensées. Pour que, Paul le dit, que vos pensées soient emmenées captives à l'obéissance de Christ. Toutes vos pensées, pas une partie. Toutes vos pensées. Si l'homme doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, il doit aussi aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses pensées. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ici, Jésus différencie l'âme et la pensée. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des pensées. Mais il a différencié, il a dit, écoutez, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer tout ce qu'il y a dans l'âme. Aimez Dieu de toute votre âme et de toutes vos pensées. Nos pensées doivent être centrées sur la personne de Christ. Nous ne devons pas avoir des pensées d'impudicité, d'adultère, de mensonge, de vol, d'homosexualité, de pornographie, de pédophilie. Je vous assure, mon frère, ma sœur, tout commence par les pensées d'abord. Lorsqu'un architecte, on lui demande, il a un contrat pour construire un bâtiment. Il imagine d'abord ce bâtiment. Il imagine, on lui donne les éléments. Ou même, n'allons même pas au niveau de l'architecte. La personne qui passe commande, qui dit, écoutez, monsieur l'architecte, je voudrais que vous me construisiez une maison. Mais avant de parler, ce monsieur a eu une idée de la maison. Ça sera de 3 chambres, 2 salons, une salle de bain, un studio, un tel, un tel, un tel. Lorsqu'il donne ces éléments à l'architecte, l'architecte maintenant à son tour imagine comment sera cette maison. Tout commence par la pensée. La restauration de votre vie passe par vos pensées, mon frère. Passe par vos pensées, ma sœur. Nous sommes ce que nous pensons. Proverbe 23, disons avec moi, Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Il est dit ceci, Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. La partie qui nous intéresse, c'est « il est comme les pensées de son âme ». Pour avoir une plus grande idée, pour avoir une idée de ce qui s'est dit, allons au verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont les regards est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Vous voyez, ici, le sage, dans le livre de Proverbes, nous dit que le malveillant est comme ses pensées. Donc, lui et ses pensées, il n'y a aucune différence. Il peut peut-être ne rien dire, mais il n'en pense pas moins. Mon frère, ma sœur, si vous voulez être restauré dans votre vie, si vous voulez une vie de succès, si vous voulez une vie de réussite, si vous voulez vivre dans la santé divine, dans la prospérité, dans la restauration de Dieu, changez votre pensée, changez votre façon de voir les choses. J'allais dire, convertissez votre âme. Écoutez, Paul dit ceci dans Romains 12, si je ne me trompe pas, très bien, c'est Romains 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul s'adresse à des hommes et des femmes de Rome, qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau et ils marchent avec Jésus. Mais Paul leur dit ceci. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, ils sont nés de nouveau, mais leurs pensées, leurs émotions, leur intelligence n'ont pas encore été changées. Combien de chrétiens avons-nous dans le monde aujourd'hui, nés de nouveau, même baptisés du Saint-Esprit? Ils vont à l'église, mais leur intelligence, leurs émotions, leurs pensées, bref, leur âme n'a pas encore été renouvelée par Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que cette partie de leur personne doit être aussi changée par la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est très important. Écoutez ce que Jean, l'apôtre Jean, dit dans son épître, dans sa 3e épître. Il dit ceci. Vous y êtes? 3 Jean, premier verset. L'ancien Agaüs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jean est en train de nous dire ici, Raphaël, je veux que tu ailles de l'avant. Tu es né de nouveau, c'est bon. Tu marches avec Jésus, c'est bon. Je veux que tu ailles de succès en succès, de réussite en réussite, de promotion en promotion. Je veux que tu ailles de la guérison divine à la santé divine, de la santé divine à la vie divine. Mais la condition, c'est laquelle? c'est que ton âme aussi doit prospérer. Et nous avons dit que l'âme, c'est le siège des émotions, le siège des pensées, le siège de l'intelligence. Mon frère, ma sœur, il n'y a que la parole de Dieu qui peut rééduquer. Je parle de rééduquer parce que quand nous étions dans le monde, nous étions éduqués d'une certaine manière. Mais maintenant que nous sommes à Christ, nous devons rééduquer. Bien de fois n'ai-je pas entendu des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, mais parlant et réfléchissant comme les gens du monde. Lorsqu'ils veulent marier leur fille, ils exigent des dots énormes. Oh non, chez nous, pour épouser notre enfant, c'est 2000 dollars, c'est 2000 euros. Mais ils sont chrétiens. Et ils vous disent non, nous, nous sommes quand même des X, des Y de la tribu. Non, lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, on n'est plus de ce monde, mais on est du royaume de Dieu. Et on réfléchit comme le royaume de Dieu devrait réfléchir. J'aime ce que Jésus disait dans le modèle de la prière qu'il a fait, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Si Dieu veut que sa volonté soit sur cette terre comme elle est au ciel, je ne comprendrais pas pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais une volonté contraire à celle de Dieu, puisque c'est moi qui dois refléter la volonté de Dieu sur cette terre. Si Dieu ne veut pas d'impudicité au ciel, il ne le veut pas non plus dans ma vie. Si Dieu ne veut pas d'adultère au ciel, il ne le veut pas non plus dans ma vie. Si Dieu ne veut pas des dots exagérées au ciel, il ne le veut pas non plus dans ma famille. Nous devons changer notre pensée. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons penser, nous devons changer la façon de conduire nos émotions. Attention mon frère, attention ma sœur. Notre prospérité matérielle, financière, économique, politique, militaire, notre carrière professionnelle dépend de la prospérité de notre âme. Je suis tenté de poser cette question. Combien d'entre vous ont déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse? Si une première fois, combien ont déjà lu une deuxième fois, une troisième fois? La question qui se pose, pourquoi vous n'avez jamais lu la Bible d'un bout à l'autre et plus d'une fois? Autant de fois que c'est nécessaire, puisque la parole de Dieu, la Bible, et la parole de Dieu est notre guide de tous les jours. Le Saint-Esprit viendra nous rappeler les paroles de Dieu. Mais comment est-ce qu'il va nous rappeler des paroles de Dieu si nous n'avons même pas encore lu ces paroles? Mon frère, ma sœur, votre succès dépend de vos pensées. Cette dame à la perte de sang se disait à elle-même. Qu'est-ce qu'elle se disait? Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle se levait et elle disait, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. J'essaie d'imaginer, on lui posait la question, tu vas où? Je vais voir Jésus parce que si je touche son vêtement, je serai guéri. Ah bon? On te l'a dit? Non, mais je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. Je suis tenté. Je vous invite, mon frère, je vous invite, ma sœur, à penser les paroles de Dieu, à penser la Bible, à penser la parole de Christ tous les jours de votre vie et de vous le dire à vous-même, ce que Dieu dit de vous, pas ce que le monde dit de vous, pas ce que votre mari dit de vous, pas ce que votre femme dit de vous, pas ce que vos enfants disent de vous, pas ce que vos parents disent de vous, mais de dire ce que Dieu dit de vous. C'est très important, c'est très important. Nous sommes ce que nous pensons. Notre prospérité dépend. Votre vie de réussite dépend, mon frère, ma sœur. Arrêtons de penser ce que les autres pensent de nous. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Rien que dans le Nouveau Testament, nous avons entre 113 à 114 versets, selon les versions, qui nous disent ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous possédons en Jésus-Christ et ce que nous sommes capables de faire en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Dans Juges 6, disons un peu Juges, c'est l'histoire de Gédéon. Juges 6, j'aime bien cette histoire, c'est très intéressant. Juges 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Gédéon, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Va, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » L'Éternel apparaît à Gédéon, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Lui, tout ce qu'il trouve à dire, il dit, « Oh, si l'Éternel est avec nous, et pourquoi toutes ces choses nous sommes-elles arrivées? Et puis, où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? » Écoutez, Dieu dit à Gédéon, « Tu es un vaillant héros. » Lui, il regarde aux autres. Dieu lui dit, « Va battre Madian. » Lui, il dit, « Non, mais écoutez, je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre. » Il regarde toujours aux autres. C'est ça que Gédéon pensait dans sa vie de tous les jours. Il réfléchissait, il se disait, « Mais où sont les prodiges de nos pères ?» Et puis, il avait la réponse, « Non, écoute, toi, tu ne peux rien faire. De toute façon, tu es le plus jeune d'une famille la plus pauvre en Israël. Qu'est-ce que tu peux arriver ?» Mon frère, ma sœur, Gédéon était avec Dieu. Si vous êtes avec Dieu, si vous êtes avec Jésus-Christ, vous êtes un vaillant héros. Peu importe, on vous met à la porte de votre entreprise aujourd'hui, ça ne change rien. Vous êtes un héros de Dieu. Ce que Dieu dit que vous l'êtes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est Christ qui nous a rendus parfaits dans son amour. Dans Jérémie 1, le prophète Jérémie aura le même problème au début de son ministère. Jérémie 1, de 5 à 7. Commençons verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je te fusse sorti de sous sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. » L'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Gédéon et Jérémie ont le même problème. Apparemment, quand Dieu veut nous utiliser, il se passe d'abord un premier combat spirituel face à Dieu. Il doit casser notre mentalité d'échec, notre mentalité de pauvreté. Dieu dit à Jérémie, « Avant que tu viennes au monde, je te connaissais. Avant que ta mère accouche, je te connaissais. Avant qu'on te conçoive, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais établi. » C'est comme vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Dieu vous connaissait avant même que votre maman vous donne votre nom, avant que vos parents ne vous conçoivent. Dieu vous connaissait. Mais le gars, il dit, « Je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Dieu lui dit, « Ne dis pas. » Mais pourquoi est-ce que Jérémie disait que je suis un enfant? Parce qu'il pensait qu'il était un enfant. Certainement que Jérémie voyait les injustices, voyait l'idolâtrie de son époque. Il voulait faire quelque chose, mais il se disait en lui-même, « Je suis faible. Qui suis-je en Israël pour changer les choses dans ce monde? Qui suis-je ?» Dieu dit, « Ne dis pas ça, ne pense pas ça. Si tu es avec moi, tu diras tout ce que je te dirai de dire, et ces choses vont s'accomplir. » C'est ce qu'il dit dans Jérémie 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Qui devait prononcer la parole de Dieu? C'est Jérémie. Vous allez peut-être me dire, « Mon frère, je ne suis personne. Dans ce grand Congo, je ne suis personne. » Non, ne dites pas que vous êtes personne. Vous êtes l'ambassadeur de Christ. Vous allez me dire, « Mais je suis personne dans ce monde francophone. » Non, ne dites personne. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un ambassadeur de Christ dans ce monde. Et ce que vous direz de la part de Dieu va s'accomplir. Le processus de restauration exige que vous devez changer votre mentalité, exige que vous devez changer votre pensée, exige que vous devez changer votre façon de parler, exige que vous devez changer votre façon de vous comporter, exige que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Écoutez mon frère, écoutez ma sœur, lorsque nous lisons l'histoire de ces grands hommes du monde qui n'ont même pas marché avec Dieu, Ils avaient des visions. Ils avaient une détermination. Ils avaient une force de caractère qui était impressionnante. Tous n'étaient pas dans le monde occulte. Mais parce qu'ils comprenaient qu'ils avaient un rôle important à jouer, ils ont joué un rôle important. Mais maintenant, nous qui sommes des enfants de la lumière, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, pourquoi, si nous pensons comme Dieu, nous parlons comme Dieu, nous nous comportons comme des ambassadeurs de Christ, nous devrions ne pas influencer positivement ce monde? Mais la condition, mon frère, la condition, ma sœur, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez impacter positivement le monde, c'est une très bonne chose. Mais vous perdriez votre âme, vous irez en enfer, et à quoi ça aura changé? Qu'est-ce que ça aura changé pour vous? L'idéal, ça serait d'aller au ciel, mais d'avant d'aller au ciel, d'influencer positivement le monde, de marquer votre génération positivement, de que les gens puissent se dire, si je suis venu à Jésus-Christ, c'est grâce à cet homme. Si j'ai grandi dans ma vie chrétienne, c'est grâce à cet homme. Si j'ai pu me marier en Christ, si j'ai pu avoir des enfants, c'est grâce à cet homme, c'est grâce à cette femme. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est venu frapper à votre porte aujourd'hui pour vous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je peux changer votre vie. Acceptez mon amour. Acceptez ma divinité. Acceptez mon salut. Et laissez-moi changer votre vie. C'est ce que Christ vous dit aujourd'hui. Ne lui résistez pas. Si c'est cela votre désir, c'est très simple. Laissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vous avez fait cette prière, croyez par la foi que Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la femme à la perte de sang. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.